que les enfants des émigrés, ils ont des rancunes quand même, mais ils y
Oui,
pensent,
voilà.
hein.
Oui, voilà, c'est
Ils y pensent.
une sorte de rancune. Donc, je ne serai pas français, bien que j'habite ici et que j'aime la France, mais voilà.
Voilà.
Nos problèmes.
Mais je pense que c'est normal. Attends. Je voudrais revenir juste deux minutes.
À ton année de naissance.
Stop, attends. Je voudrais juste revenir deux minutes. À l'époque, c'était comme ça. La loi a changé dans les années 70 sous Giscard. Ma mère, par exemple, elle n'a toujours pas. Ça fait 50 ans, quasiment 55 ans qu'elle vit en France. Elle n'a toujours pas la nationalité française.
Donc, tous les 10 ans, elle est obligée d'aller faire sa carte de séjour.
Tout le temps.
Oh là là, courage.
Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait. Elle ne le fait pas.
Ouais.
Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur
Mais
le
parce qu'à
droit
l'époque,
du.
je pense qu'on n'avait pas le droit à la double nationalité. Je ne sais pas ce qui se passait. Il y a des pays où on a le droit à la double nationalité. Je ne vois pas pourquoi. En fait, tu renies ni ta mère ni ton père, hein, ta double
Non,
nationalité.
par exemple, pour l'Espagne, il faut que tu la demandes. Moi, mon frère et ma sœur l'ont demandé. Moi, je ne l'ai pas demandé. Ma sœur vit en Espagne. Mon frère vit en France. Ils ont la double nationalité. Moi, je ne l'ai pas demandé. Je suis exclusivement français. Je n'ai jamais vu l'intérêt de la demander parce que je suis
Ah,
français.
ben les frontières sont ouvertes maintenant, hein, il n'y a pas de
Mais non, mais
problème.
même. Je sais pas pourquoi, je ne me sens pas du tout. J'en sais rien, j'ai jamais fait en même temps, moi, les trucs administratifs, ça n'a jamais été mon truc. Tout ça n'a
Fais
jamais
attention,
été.
hein, ça pourrait changer dans quelques années, hein,
Ouais, il
chacun
faudrait
chez
fuir en
soi.
Espagne, c'est
Hein.
ça. Oh, Marine Le Pen arrive. Mais je vais vous dire un truc.
Ça va barder, là.
Hey, Marine Le Pen arrive, je reste en France. Je vois pas pourquoi on devrait
Ah ben tu pourrais
fuir.
pas aller en Espagne parce que t'as pas la nationalité espagnole. Donc tu restes ici.
Tu serais, comment dire, on émigrerait en sens inverse et tout, tout ça. Ben non, je vois pas pourquoi je partirais.
Ah, c'est une idée à la mode, ça, la remigration, oui. Mais
Attends,
pas
ouais,
pour
non, mais je
autant
vais
en
pas
France, mais.
rémigrer. Je suis ici chez moi.
Ben, j'espère bien.
Voilà, et puis je vois pas, et puis si elle passe, eh ben écoute, on fera avec et on se battra, je sais pas ce qu'on fera, j'en sais rien, mais on laissera pas faire, voilà quoi, c'est tout, c'est
Comme dit Vanessa, on reprendra la Bastille.
la Bastille c'est devenu un centre commercial, chérie. Tu vas rien reprendre du tout, c'est que des bars. À moins d'aller vider tous les fûts de bière. Donc, en effet, la question de Alex est intéressante, droit et obligation. Mais bon, c'est quand même un peu pointu là.
Oui.
C'est un peu pointu. Est-ce qu'on continue
Moi, j'ai un truc sur le cinéma après, si vous voulez.
Non, mais est-ce qu'on continue 2 minutes, Irène, sur tout cet endroit de l'océan Indien que tu connais très bien, est-ce que tu veux continuer à nous en parler? Ça nous intéresse, puisque tu es là ce soir.
Oui, mais bon.
Bah, dis-nous quelque chose.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été, que je suis pas au courant. Je suis au courant.
Rapproche-toi du micro, chérie.
J'ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été et que je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Je veux pas trop en parler. Comme ça, faudrait peut-être que j'étudie la question. Mais là,
Mais toi, qu'est-ce qui te semble. Qu'est-ce que tu. Enfin, c'est un peu la question primordiale qu'on t'a posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ce bordel, quoi, de tout ce qui se passe?
Oui, mais moi,
Ah,
j'ai.
mais c'est triste, c'est dramatique parce qu'il y a beaucoup de morts. Nous, on nous parle de tous ces migrants qui arrivent en Italie, mais un peu partout en France, mais on parle pas de ça. Mais il y a des morts tous les jours
Bah,
qui
attends, attends.
traversent et qui et moi, je trouve que c'est
Bah, attends,
triste.
au moins, un sujet dont tu dois connaître un peu quand même la teneur, c'est Madagascar. Madagascar, c'est quoi?
C'est un très grand pays. C'est non, énorme.
Je veux dire, Madagascar, c'est... Qu'est-ce qui s'y passe?
Oula, Madagascar, c'est le tiers-monde, hein. C'est autre chose encore, Madagascar. Hein.
Ça, pourquoi la population de Madagascar est aussi pauvre? Pourquoi?
Bah parce que, à cause des dirigeants qui sont corrompus. Or qu'on a toutes les richesses qui existent, il y a des plantes, il y a plein de choses qui existent à Madagascar qui n'existent nulle part ailleurs. Mm-hmm. C'est un pays qui a plein de richesses dans tous les domaines, des pierres, des plantes, de tout. Mais tous les gouvernements, ils sont corrompus. Tout, c'est la corruption.
Et on ne peut rien faire contre ça.
On ne peut rien faire. Il y a eu transition il n'y a pas très longtemps. Pendant 5 ans, on a mis les militaires, on avait tout qui... Et puis tout ça, moi, je pense que c'est dirigé d'ailleurs aussi. Hein. Ce n'est pas que Madagascar. Hein. Moi, je soupçonne... Avant, bon, il y avait les Français, c'était autre chose. Je ne dis pas si c'était bien ou pas bien. Enfin, moi, je suis née à peu près à cette époque-là. J'ai grandi à cette époque-là. Après, il y a eu la Russie.
Ah oui.
Et maintenant, il y a les Chinois. Ah oui. Ah oui, il y a eu les Russes. Et maintenant, il y a les Chinois.
Ah oui.
Et la Russie, elle est pas. Elle revient tout doucement. Donc, voilà.
Quelles sont les implications de la Russie?
De la Russie et de la Chine. Quelles sont les implications, effectivement?
Les implications, bah, ils prennent toute la richesse. On a accusé les Français d'avoir pris la richesse de Madagascar. Mais je pense hein, que les Français prenaient, j'en doute pas, mais ils envoyaient les enfants à l'école, ils donnaient. Les Russes, ils viennent, ils mettent leur. C'est la dictature, quoi.
La diaspora.
Voilà, ils mettent les trucs en place. Moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a très longtemps, j'étais choquée. Je voulais partir à Madagascar et ça faisait un moment que je n'ai pas été. Et j'étais obligée de passer par la Russie. Je ne comprenais pas pourquoi je passais par Moscou. Alors, on me disait, il n'y a pas de vol commercial. Les vols pour aller à Madagascar, c'est des vols... politique. Donc, je suis passée par Moscou il y a quelques années de ça. Mmh. Et en arrivant là-bas, ben, tout était régi dans un livre rouge comme en Russie, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup choquée aussi, c'est que le président n'avait pas confiance à ses militaires et c'est les militaires russes qui le gardaient.
Wow.
Et en plus de ça, ben on avait des carnets de rations pour aller acheter du riz, pour aller acheter.
Alors ça, c'était à l'époque soviétique, alors.
Ah non, pas du tout, non.
Non, c'est récent.
C'est récent.
Enfin, c'est récent. Il y a, je sais pas, il y a plus de 30 ans maintenant, je pense. Il y a plus de 30 ans, mais non.
Bah, c'était pas récent, chérie. Mais bon.
C'est pas récent.
Non, mais ce qu'on veut dire, ça date pas de l'Union soviétique.
Ça date pas de l'Union soviétique. Non. Ils ont décidé. Et là, maintenant, c'est les Chinois qui viennent parce qu'ils s'implantent là-bas. Ils prennent tous les terres. Ils veulent tout acheter. Et le gouvernement laisse faire. Le gouvernement.
Je comprends pas. Quand tu dis ils prennent les terres, c'est-à-dire qu'ils les déplacent pour emmener en Chine ou ils les cultivent?
Non, ils cultivent. Ils chassent les cultivateurs. Mmh. Ils cultivent les terres pour... Madagascar, c'est un des plus grands pays qui cultive du riz. Et quand vous allez à Madagascar, vous ne trouvez plus du riz malgache, vous trouvez du riz chinois. C'est pas normal.
Oui, c'est drôle.
C'est pas normal quand même. Mmh. Voilà, tout est comme ça. Là, c'est les Chinois maintenant. C'est les Chinois qui s'installent, qui cultivent, qui le commerce.
Chinois ou russe, c'est la même chose de toute manière.
Ah bah oui. Bah.
Donc voilà.
Bah ouais.
Non, c'est pas la même façon de procéder.
Ah bon, c'est pas la même manière.
Bah par exemple, les Chinois ils envoient des usines clés en main avec des Chinois qui vont travailler dedans. Ils prennent pas la main d'œuvre locale.
Ah ben ils prennent pas la main d'œuvre locale. Non, pas du tout. Alors là, Si, si, ils en prennent des mains d'œuvre locales, mais à des prix pas possibles. C'est leur esclave, quoi. Mmh. C'est leur esclave. Ils sont là.
Est-ce que tu veux nous dire que les gouvernements malgaches successifs se plient, c'est pas le mot, aidez-moi,
Ils sont corrompus.
Bon, tous. C'est le libéralisme international. Appelons-la comme ça poliment.
Voilà, voilà. De toute façon, il n'y a pas que Madagascar. Hein. Tant qu'il y a la corruption.
Et il y a des échanges, il y a des gens qui tentent d'émigrer depuis l'Afrique vers.
Ça commence.
Mayotte, puis vers Madagascar.
Ah oui, oui, ça commence de l'Afrique. De l'Afrique de l'Ouest.
J'ai entendu une émission, je crois que c'est hier ou avant-hier.
Sur France Info aussi, c'est.
Sur la 5, et il parlait d'une richesse. Il y a le canal de Mozambique,
c'est. Oui, c'est juste à côté. En fait, Madagascar, voilà. C'est de l'océan Indien, mais c'est entre le canal de Mozambique et.
Alors j'avais peur de confondre, c'est pour ça que j'ai une confirmation. Il y a une zone où il y a du gaz, autant qu'au Qatar. Waouh!
Mais c'est ce que la France veut récupérer, ça s'appelle.
J'ai bien compris.
C'est ce qu'appellent les îles éparses.
Ah voilà.
Voilà.
Et je crois que c'est Total qui officie.
De toute façon, nous possédons à Madagascar une richesse. Je crois même qu'ils ont trouvé du gaz ou du pétrole à Madagascar. Hein.
Mm-hmm. Justement, Yves, tu disais que tu avais trouvé un article.
Non,
ils ont trouvé une poche de gaz immense.
Oui, c'était pas un article. C'est cette émission que j'ai entendue avec les gens qui discutaient. Dont une représentante de Mayotte qui est députée à l'Assemblée nationale qui faisait une description très précise de la situation.
Estelle Youssoufa.
Oui, c'est ça. Une très 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 jolie femme qui s'exprime. Alors là, elle est
en
percutante.
En plus, excellente oratrice.
Oui. Et donc à un moment, alors je ne sais plus si c'est elle ou non qui a dit, mais tous étaient d'excellents orateurs et c'était intéressant leur point de vue qui différait un petit peu, mais ils apportaient chacun un point de vue un peu complémentaire, sans vraiment avoir d'opposition. Et il y a cette idée, il y a ce fait qui est arrivé sur le tapis, à savoir qu'il y a une énorme réserve de gaz et qui serait équivalente à celle du Qatar. Qui est dans cet endroit-là, qui s'appelle le canal du Mozambique.
Il y a du pétrole aussi.
Oui, du pétrole.
Ils sont en train d'extraire. Ah. Oui, oui. C'est un pays qui est très, très, très riche. Et c'est pour ça que c'est convoité. Les Chinois, tout le monde le convoite et tout. Mmh. Mais le peuple est de plus en plus pauvre.
Mmh. D'accord.
C'est ça que je ne comprends pas très bien. La richesse n'est pas partagée. Il y a des très, 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 très riches. Par contre, il y a des très, très riches.
Oui.
Vous allez à la capitale, vous allez voir des Porsche, des 4x4.
Alors, comment s'appelle la capitale ?
Antananarivo. Mais vous n'avez pas la théorie du premier de cordée chez vous, peut-être ?
Non.
Non ?
Non.
Ah, c'est
non.
Pas arrivé jusqu'à vous encore ?
Non, pas encore.
Ah oui. Bon. Et le ruissellement, vous l'avez déjà, ça ?
Le ruissellement ?
Oui, le ruissellement de l'argent des riches vers les pauvres.
Ah non, ils partagent pas.
Vous avez échappé à deux discours. Bravo.
Ah non, ils partagent pas. Puis ils en veulent. Et à chaque élection, il y a une élection il n'y a pas très longtemps, justement. Alors, il y a eu je ne sais pas combien de candidats, je n'ai pas compris l'histoire, en fait. Il y a eu plein de candidats et tout. Et puis, au moment des élections, les candidats, ils ont fait une espèce de désistement contre le président sortant pour ne pas le mettre en place. Mais vu qu'ils ont fait désistement et qu'ils ont appelé les gens à ne pas voter et que eux, ils ont appelé les gens à ne pas voter, pour boycotter, ben, le peu qui ont voté, ils ont voté le président. Donc, il est repassé.
Classique.
Voilà. Est-ce que c'est pas de la magouille aussi, tout ça ? J'en sais rien.
C'est un mauvais calcul, disons, au minimum. Oui.
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
Est-ce qu'on fait une petite pause et on revient là-dessus ?
Ouais. Ouais, ouais.
Parce que moi, j'ai encore envie de t'interroger,
Irène. Oh là là !
Ah oui.
Ah oui.
Allez. Tu es sous la sellette ce soir.
Allez.
Allez. Marc Almond, les garçons de Londres. Very nice to his mother.
Bobel strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meter's dead. You moved away. Wrote your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys that you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. Oh, the first time that you tried a pill, you feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose face. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. And the month you've been away from your parents' home, you take the pills too much. You don't give a damn about the job you've got, so long as you're with the London boys. A London boy, oh, a London boy. Your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, a London boy. You're crying out loud that you're a London boy. You think you had a lot of fun, but you ain't got nothing, you're on the run. It's too late now, 'cause you're up there, boy. You got it made with the rest of the toys. Now you wish you never left your home. You got what you wanted, but you're on your own with the London boys. Now you met the London boys. Now you're with the London boys. Now you are a London boy.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, 89.4 de Poste Non Radio Show. Ce soir, nous sommes avec Serge, Irène et Yves, qui malheureusement n'est pas là. J'espère qu'il ira mieux.
Mais qui on fait on salue.
Voilà. Bon établissement.
Bah oui, on espère. Alors, Irène.
Non, il y a Serge qui voudrait peut-être...
Non. Le disque qui vient de passer, Marc Almond, c'est bien le chanteur, l'ex-chanteur des Communards.
C'est le chanteur de Sarcelles dans un immense album. Il en a fait des milliers, Marc Almond.
Ah, d'accord. Bronski Beat et The Communards, c'est lui aussi.
Ah, Bronski Beat.
Pas du tout, c'est pas les Communards.
Ah,
Marc Almond, c'est Sarcelles.
Ah, voilà. Ah,
bah. Stardom Road... Un superbe album.
Ok.
Le disque est d'ailleurs doré. J'adore.
Mais il est beau, hein, effectivement.
Marc Almond est queer à souhait.
Oui.
Ah, il est magnifique.
Ah, une couverture en cuir, tu veux dire ?
Non, il est queer.
Oh, pardon, je n'avais pas compris.
Homosexuel à souhait.
Ah, mais je suis vieux, excusez-moi.
Je suis désolé de m'être planté sur le plan musical, effectivement.
Il est gay à souhait.
Eh ben, on peut être gay et cuir.
Ah, bah
oui.
Ah, bah oui. Bah, Irène, j'aimerais que tu nous... C'était quoi la vie à Madagascar?
Oh là 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 là, alors là, ce sera pour la prochaine fois, j'écrirai, je me lancerai là-dessus. Je me suis pas préparé.
Un aperçu.
Bah, insiste pas, elle veut pas. Une autre fois, tu lui dis de préparer. Là, elle a pas préparé,
Je
ne
suis pas préparé la vie à Madagascar. Tu sais, là, ça fait. Je sais pas combien d'années que je suis pas retournée pour plusieurs raisons. Il y a eu le Covid, il y a eu. Plein de choses, je suis pas retournée, donc j'essaye de ne pas trop y penser parce que c'est la nostalgie quand même pour moi, parce que j'ai encore de la famille là-bas, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères, et pour moi c'est hyper dur hein, de ne pas y retourner, et c'est mon pays, c'est ma... Enfin, j'ai deux pays, de toute façon. Hein. Mon pays, c'est la France. Ouais. La France. J'ai deux pays. Il y a une chanson comme ça.
Oui, oui.
Voilà. J'aime les deux, mais voilà.
J'ai deux amours.
Ma racine, enfin, ma racine, c'est Madagascar. Et bon, j'ai la chance d'avoir un peu de famille ici et avec qui je peux converser et ne pas oublier, mais... Il n'y a rien de tel d'aller sur place et de sentir les parfums, vivre d'une autre manière, manger d'une autre manière. Donc là, je ne peux pas trop en parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Et donc, ça me manque beaucoup, d'ailleurs. Voilà. Mais je te promets que je en parlerai la prochaine fois, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, Yves, tu devais nous parler d'un article.
Ah oui, vas-y, comme ça, après je poserai une autre question.
Alors, vous pensez tous que j'allais parler des JO, et bien vous allez souffrir.
Oui, vas-y, oui, oui.
Et je ne vais pas en parler maintenant. Je vais vous parler des fiches du cinéma au bout de la bobine. Il y a un SOS qui est lancé par un article écrit par DF dans le Canard Enchaîné. SOS Patrimoine en situation critique. Les fiches du cinéma, publiées depuis 1934. Qui s'enorgueillisse du titre de la plus ancienne revue cinématographique de France, vont-elles passer l'hiver ? Un édito du 3 janvier résume le paradoxe, un stock de 42 000 fiches sur tous les films sortis en France depuis 90 ans, mais plus que 3 mois de trésorerie. L'échéance financière a été repoussée à fin avril, et des pourparlers vont bon train avec des acteurs de tout acabit, les banquiers, distributeurs, plateformes de films d'auteurs, sites internet généralistes, etc. Tous lorgnent avec intérêt les datas qui ont fait la réputation des fiches, notamment les résumés intégraux du début à la fin de toutes les œuvres recensées et leurs fiches techniques, outre les critiques qui les complètent. L'association qui édite la revue depuis 2003 a fait numériser ce stock et a constitué une base de données désormais en accès libre pour ses 700 abonnés payants, 52 € pour les particuliers, 88 € pour les professionnels. Il ne faudrait que 500 abonnés payants supplémentaires pour rétablir l'équilibre, mais ni les exportateurs, ni les facs, ni les institutions ne veulent cracher au bassinet. Il s'agit dès lors de valoriser la base de données sans pour autant que la revue qui les édite perde son âme et son indépendance éditoriale face à certains groupes intéressés. La voilure a pourtant été resserrée au minimum. Ce sont une vingtaine de bénévoles qui rédigent les fiches, mais ils peuvent se rattraper en étant payés sur les partenariats avec des festivals notamment. L'association ne compte plus que 3 salariés. La rédaction n'a plus de locaux depuis quelques mois. Quant à la version papier, lâchée par l'éditeur historique Actes Sud, elle n'est plus publiée depuis 2018. Et depuis, les fiches de cinéma donc, se trouvent à la merci des aléas. Le Covid, qui a freiné les sorties de beaucoup de films, a par contre-coup fait baisser la redevance payée par les sites institutionnels comme le CNC ou la Cinémathèque au prorata des résumés empruntés ou cités. De même, le groupe Prisma, qui a racheté TéléZ en 2021, a mis fin au forfait annuel de 20 000 € payé pour citer les résumés des fiches. Résultat, 30 000 € de trous dans le budget annuel, 200 000 €, et une revue qui bat de l'aile. Malgré son trésor de la Sierra Madre, les 42 000 fiches numérisées sur lesquelles elle est assise. Il ne reste plus qu'à trouver l'investisseur miracle qui, descendant de sa diligence et sans coup férir, viendra sauver cette belle en perdition. Donc c'est un article, page 5 du Canard du mercredi 24 février, signé D.F.
Ce que je trouve inadmissible, c'est qu'effectivement, les magazines, par exemple, les magazines télé, etc.
Pariscope, par exemple.
Pardon. Excusez-moi. Les magazines... ne veulent pas acheter les avis, donc ouais. les fiches, ça c'est inadmissible, parce qu'il y a tout un travail qui est fait derrière, de recherche, de création de résumés, etc., avec toutes les données qui sont faites, en plus par des bénévoles, en plus. Et ils sont pas rémunérés pour, ils seraient pas rémunérés donc je vois pas. C'est un peu dommage. Pardon.
C'est le patrimoine qui se perd.
Oui, tout à fait. Et les magazines, que ce soit par exemple des magazines télé ou des magazines d'autres magazines, qui veulent avoir effectivement des résumés et des indications sur les films, sur les 40 000 films, c'est ça ?
42 000 fiches.
Bon, il y a quand même...
Tous les films sortis en France depuis 90 ans.
Eh ben oui, mais ça se paye, hein.
C'est incroyable, hein.
Ils ont les moyens, les magazines qui utilisent ces fiches-là, ils ont les moyens de payer, je suis désolé.
C'est aux archives nationales françaises aussi, de prendre ça en compte.
Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est à eux de prendre ça en compte.
Oui, ça pourrait.
Mais non, c'est pas que ça pourrait, c'est à eux de prendre ce travail en compte. Il y a un énorme problème avec les archives.
Oui. Bah, d'autant plus que, étant donné qu'on publiait de plus en plus de trucs de façon exponentielle, archiver est de plus en plus massif, disons. Demande une masse de stockage... chaque fois plus importante, c'est vraiment un problème. Mais là, c'est quand même des trucs papier. Depuis 1934, ça existe. Et donc, c'est quand même un sacré trésor, oui, parce qu'il y a des films qui ont disparu, par exemple. Mmh. Ça arrive, ça, que les films brûlent et que les pellicules disparaissent ou qu'on les perde. Donc là, on a au moins le résumé de films...
Mais c'est pour ça que maintenant, les films, ils sont en train d'en restaurer pas mal, hein. Il y a des vieux films...
Ouais. Oui, mais enfin, là, apparemment, les 42 000 fiches, les archives nationales, ils en ont un peu rien à foutre.
Oui, en fait, c'est effectivement... les fiches, c'est d'utilité... c'est d'utilité publique, en fait, finalement.
Il faut les garder. Patrimoine.
Oui, tout à fait.
Patrimoine de l'humanité.
Oui.
Enfin, notre humanité française à nous.
Mmh. Lâché par les Actes Sud. Ouais. Plus publié depuis 2018. Ça fait quand même 6 ans. Wow.
C'est énorme. C'est énorme. Ça devrait pas, quoi.
Ouais,
ça
voilà.
Devrait pas.
Donc j'ai trouvé.
Ouais, mais c'est le numérique aussi. Hein. C'est le numérique qui bousille tout ça, je pense, non ?
C'est le passage au numérique qui fait que toutes ces archives ne peuvent pas être numérisées. Prises en compte.
Il y a des archives qui ne peuvent pas être numérisées.
Il y a trop d'archives, ils ne peuvent pas les prendre en compte. C'est trop d'argent.
C'est une association qui édite la revue depuis 2003. Elle a fait numériser le stock et elle a constitué une base de données qui est en accès libre. Donc les papiers sont numérisés. Il y a actuellement 700 abonnés.
Pas beaucoup, hein.
C'est pas beaucoup, non.
Non, c'est pas beaucoup.
700 abonnés, c'est pas beaucoup.
Il en manque 500 payants supplémentaires pour rétablir l'équilibre. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui se propose. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de le lire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se décider.
Moi, je veux bien m'abonner.
52 € pour les particuliers, 88 € pour les professionnels.
52 € par mois ou par an ?
Par an.
Je veux bien m'abonner, alors.
Ouais.
Enfin, j'imagine que c'est par an.
Au moins pour cette année.
Ouais.
Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Oh, ben nous sommes éternels, Enrique.
Ah.
Nous sommes éternels.
C'est toi qui le dis.
Même après la mort, nous vivrons toujours.
Ah, oh là 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 là. On va pas venir sur ce sujet-là. Moi, la mort. Moi, toutes les balivernes après la mort, je suis pas d'accord du tout.
Ah ben, on sait pas, d'accord ou pas d'accord, il y a jamais personne qui est revenu, donc on sait pas ce qui se passe. Hein.
C'est sans doute qu'ils y sont bien.
Oh. S'ils sont pas revenus, c'est qu'ils sont bien. Ah ben, ouais, peut-être parce qu'ils peuvent pas.
Moi, je suis encore mieux vivant. Je vais te dire un truc, moi j'ai frôlé la mort, je pense que la vie c'est mieux que la mort. Et tous les gens qui nous promettent et qui nous disent, alors là c'est un truc, alors on parlera de ça.
On sort de truc là.
On parlera ça peut-être dans une autre émission, je sais pas.
Mais on te promet alors, rien du tout.
Mais non, improvisons, tiens.
On te promet rien du tout, on te fait juste dire que... Après la mort, il y a autre chose. On ne sait pas.
Attendez, le
que
charlatanisme.
Que ce soit dans n'importe quelle religion.
Ah, non.
Ou
le
que
charlatanisme.
Ce soit athée, ou,
le charlatanisme.
Agnostique. Agnostique et tout. Non. Mais il se passe quelque chose. On ne peut pas disparaître comme ça.
Non, c'est que si.
On est bouffé par les vers. Le problème, c'est qu'avec le glyphosate, il y a de moins en moins de vers.
Ah non, ça par contre, non.
Et donc la décomposition risque de durer beaucoup plus longtemps.
Ça, je refuse.
Bah, t'as beau refuser, ils te boufferont quand même.
Ah non, bah non, c'est pour ça qu'on se fait incinérer maintenant, parce qu'on se fait pas bouffer.
Bah, cendre.
Ah bah oui, cendre.
Cendre, tu reviendras.
Encore faut-il arriver à éparpiller, c'est pas évident. Moi, je suis pas arrivé pour un proche.
Ah mais maintenant, ce fastoche, ma meilleure amie, là, dernièrement, on l'a fait sous un arbre dans le sud, c'est fini.
Ah oui, bah moi, j'ai pas eu le droit de sortir l'urne, je sais pas... On parle des particularismes quelquefois... de Mayotte, mais en France, il y a aussi des particularismes dans certaines régions. C'est assez bizarre.
Oui, mais c'est la loi, il y a la loi, et puis il y a ce que tu peux. Tu peux toujours, ce genre de choses, je peux te promettre que tu peux le contourner. Tu peux le contourner.
Bah, soit je n'ai pas compris ce qu'on m'a raconté, ce qui est fort possible.
Ah non, mais
je sais.
Mais
soit c'est en Alsace, et en Alsace, l'urne, on la met là.
Oui, c'est tout.
Tu sors pas l'urne.
Moi, je peux te dire que ma meilleure amie est décédée il y a 2 ans. On a attendu l'urne et on savait pas où la mettre. Sa sœur l'a pris un train. Elle habite dans le sud. Elle a amené avec elle dans le sud et elle a éparpillé. Qui contrôle ?
J'ai une copine qui vient de le faire pour son mari.
Qui le contrôle ?
Dans la mer.
Ben voilà.
Suivant son vœu.
Ben bon, il paraît qu'il y a des puces, mais qui contrôle ? Personne ne contrôle. Mais non, la loi interdit. Par contre, la loi, c'est vrai que la loi interdit.
Ah, t'es d'accord.
La loi interdit.
T'as même plus le droit de faire ce que tu veux de ton cadavre.
Même mort, il faut que tu te payes encore les droits.
Ta loi était trop récente et donc voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est interdit. Avant c'était possible, maintenant c'est interdit parce qu'avant les gens le gardaient à la maison et tout, machin, tout ça. Mais maintenant c'est interdit. Il paraît qu'ils mettent des puces. Mais si tu peux contourner. Hein.
Mmh. Allez, on va contourner avec un peu de musique.
It's gonna walk the walk.
bien genoux, au ta casquette, mais ce béret et relève la tête. Fixe, robot, rompé, tu dois se bire, mais surtout ne pas discuter.
Pas être assez malin pour apprécier les gardes à vous du matin.
Prends ton bardard, nous partons en balade. 25 kilos sur l'autre, tu parles d'une rigolade. Y'a que les gonzesses qui arrivent en retard, on leur colle un mois de repos au mi-tard.
On ne brille pas tellement dans les marches faussées, surtout quand on n'en saisit pas bien l'intérêt. S'il faut faire ça pour être un homme, j'en suis pas un, qu'on me le pardonne. Nos frangins les ont faites au randonné. Ceux qui avaient le cœur fragile, le confort les a
t'as l'air rodé, faut que tu marches ou que tu crèves, comme tes copains de chez-y ou prendre la relève. Quand les postiers bien trop payés s'arrêtent de bosser pour manifester.
Comptez pas trop sur nous, même quand les temps sont durs, pour trier le courrier ou vider les ordures. Faudrait pas vous figurer qu'on va rappliquer quand vous nous sifflez. Aux arguments massus, décidez les plus entêtés.
Viens par là, petit soldat, attrape ce flingue et tire dans le tas. Du courage, fils d'antifils de la patrie, le bras du patron.
Vous endormez les gens avec vos idées fixes à propos des pop-off, des rouges, des bolcheviks. Et les marines pendant ce temps-là s'entraînent peinard chez nous à la guérilla.
Je rêve d'une France où l'herbe serait kaki. Un soldat se cacherait derrière chaque taillis. Des canons et des chars remplaceraient sur nos vertes prairies les broutards.
Dans les casernes et dans les forteresses, combien de points contre vos gueules se dressent. De Nancy à Toulon, on entend déjà se lever un grand.
Radio Libertaire 89.4, The Post Non, The Post Non Radio Show.
Et en DAB+.
Pardon.
Et en DAB+.
Ah oui, j'avais oublié le DAB+. Serge, heureusement que tu es là. The DAB+, le 9A.
Exact.
Alors, où voilà. En sommes-nous ?
Les JO ? Vous voulez que je vous parle des JO ?
Bah oui, oh oui, ça sera. Et bah c'était génial.
Les JO.
Et ben quand la flamme devait s'allumer à Paris, le visiteur débarquant à l'aéroport de Roissy rejoindrait la capitale en 20 minutes chrono à bord d'un train direct, le Charles de Gaulle Express. Et depuis Orly au sud, fini l'Ordival. La ligne 14 filera sans détour jusqu'à Châtelet. Le touriste qui voudrait découvrir l'urbanisme de la Défense et assister aux compétitions de natation, s'ils s'y tiendront, choisirait le RER A ou la ligne flambant neuve, dernière du réseau régional, terminus Mantes-la-Jolie. En banlieue, les lignes 15, 16, 17 du Grand Paris Express. Bon, j'arrête de vous bassiner.
Non, en fait, c'est
parce
faux.
Que tout ça, c'est ce qui était prévu.
C'est ce qui était prévu, et c'est totalement
ce qui,
faux.
C'est pas tout à fait ce qui va être fait, mais disons, on va se contenter de ce qui sera fait. Il y a eu deux pages dans Le Monde datées du 14 et 15...
C'est encore loin de beaucoup de choses. Là,
dans Le Monde daté du jeudi 15, pages 14 et 15, donc, il y a des cartes, hein, c'est hallucinant. parce qu'on voit ce qui était prévu finalement, et puis on voit ce qui a été construit. C'est déjà bien que ça a été construit, ne rechignons pas devant. Mais bon, bah, c'est ainsi, disons. Et alors, l'article explique un petit peu. Bon, on sait qu'il va y avoir environ entre 800 000 et 1 million de personnes, que les transports devaient être gratuits, et ben c'est fini, ça ne le sera pas. Ça serait même assez cher, hein, si j'ai bien compris. Vous avez intérêt à prendre vos tickets de métro d'avance, avant que ça augmente. On vise 100% des spectateurs dans les transports en commun ou en mode actif à vélo ou à pied. Le mode actif, c'est à vélo ou à pied, hein. Voilà, et donc l'article que j'ai sous les yeux dit des projets qui déraillent en cascade. Alors la France a-t-elle été bravage, trop présomptueuse au moment de présenter sa candidature? Les promesses ont été faites de bonne foi, bien
oui,
sûr.
Oui, comme d'habitude.
Seuls les projets déjà bien engagés, c'est-à-dire inscrits au contrat de plan État-Région ou dans le cas du Grand Paris Express porté par une loi, ont été sélectionnés et reportés dans le tableau de candidature. Donc quand même, ça limite. Mais c'était il y a 9 ans, donc il est irréaliste de pouvoir penser pouvoir construire une seule ligne de transport lourd en 7 ans, le temps qui s'écoule entre l'annonce de la ville haute des Jeux et l'arrivée de la flamme. Il faut compter au moins 14 ans, confirme Jacques Baudrier, administrateur d'Île-de-France, dont le monde se fait un plaisir de rappeler Parti communiste français, vieux réflexe. Donc Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice de transport en Île-de-France. Néanmoins, c'est peut-être là que se trouve la faille. Il arrive que ces fameux contrats de plan État-Région soient gonflés, voire pas toujours sincères. Oh, qu'on est menteur, quoi. Bon, bref, la belle histoire a déraillé petit à petit au gré d'atermoiements politiques, d'aléas inhérents aux gros chantiers, sans oublier la pandémie de Covid-19. Le chantier qui se déroule sous les pieds des Franciliens est titanesque. Aucune métropole occidentale n'a mené des travaux souterrains d'une telle ampleur simultanément. Bon, cocorico, quoi. On a eu 20 tunneliers en même temps, au plus fort des travaux, le prolongement des halls, enfin bon, tout ça, donc, on avait un sous-sol bien encombré, d'anciennes carrières, une nappe phréatique qui affleure, les équipes de la ligne 14 en savent quelque chose, bref, rien n'était prévu, et on comptait sur la chance, on n'a pas eu de chance.
La ligne 14 est toujours fermée, là, maintenant, tous les soirs, ils sont
ouais,
fermés.
Ouais, elle est fermée, la ligne 14, elle est fermée jour et nuit, tout le temps, parce qu'ils sont en train, ils expliquent un peu plus loin.
Jour et nuit.
Oui, et ils sont en train de changer le système informatique qui datait de 1998, qui était de Siemens, et qui permettait d'avoir, alors là c'est plus précis, ça permettait d'avoir, j'ai lu ça quelque part,
t'en es où là ?
Je vous demande 2 minutes pour trouver le nombre. Voilà, ça permettait de faire rouler en même temps 35 trains avec un intervalle serré de 105 secondes entre deux rames en heure de pointe. Ça, c'était le logiciel qu'ils sont en train de changer, celui de Siemens, donc qui date de 1998. Et le nouveau, il y a une capacité de calcul plus puissante, ça pourra gérer 65 rames à plein régime et réduire l'intervalle à 80 secondes. Cependant, c'est pas fait, quoi. Pour la ligne 14, ils sont en train donc de faire des essais actuellement. C'est pour ça que la ligne est fermée jusqu'au 20. J'ai oublié quelle date. Enfin, elle est fermée en ce moment. Ils font des essais. Donc, des premiers, c'est du 7 au 14 avril. Encore d'autres essais en juin. Il faut également que la commission de sécurité le 25
juin,
avril donne son accord.
Ils seront jamais prêts.
Il faut également que les nouveaux wagons arrivent. Alors ça, on n'a pas de chance, mais ils ne seront pas tous là. Il y aura seulement 45 rames au lieu de 65. Alstom a du retard dans les livraisons. Au ministère des Transports, M. Clément Beaune faisait le point toutes les 2 semaines sur la production de l'usine de Valenciennes.
Ah, c'est plus Clément Beaune, hein.
Avec le PDG Poupard-Lafargue, Henri Poupard-Lafargue. Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice de transport qui finance le matériel roulant, refuse de polémiquer. 45 voitures permettent de maintenir l'intervalle de 105 secondes aux heures de pointe, ce qui sera suffisant selon les prévisions. Au total, donc, les 72 rames de la 14 auront compté 1 milliard d'euros à IDFM, c'est-à-dire à la région, aux collectivités territoriales d'Île-de-France. La SGP, elle, a financé les 2,8 milliards d'euros de travaux et de tunnels. À terme, la ligne sera reliée au nord aux lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express et au sud à la 15 et la 18. Les aléas du chantier ne seront alors plus qu'un mauvais lointain souvenir. En 2016, à la station Porte de Clichy...
Je ne veux pas t'interrompre, Yves, mais c'est des choses pour les touristes. Je pense que nous, les Parisiens et les gens d'Île-de-France, ne sommes pas concernés parce que on ne va pas tellement prendre, à part les gens, bien sûr, qui habitent en dehors de Paris, qui vont travailler, mais... Pour les Parisiens même, je pense qu'on ne sont pas concernés à tout ça.
Il y a ceux qui vont partir pour fuir la ville, bien que...
C'est le bordel.
Fuir la ville, ça, c'est
Et puis il
okay,
y a ceux qui, férus de modernité, vont vouloir prendre toutes les lignes nouvelles et encombrer les gens qui sont là pour les Jeux Olympiques.
Mais ils auront le temps après le JO, parce que
ça... Non, parce qu'après le JO, tous les gens à qui on demande de travailler pour les JO en différant leurs vacances, vont... prendre leurs vacances.
Oui.
Et donc, après le JO, il va y avoir un grand trou au niveau des personnels de la RATP cette fois-ci.
Oui, mais tout
ça sert à rien par rapport à une
toutes ces nouvelles technologies vont rester. On ne va pas faire comme, comme le Brésil, quand ils ont eu la Coupe du Monde, et qu'après Coupe du Monde, tout est resté délabré, il n'y avait plus rien et tout. J'espère que nous allons quand même en profiter de toutes ces infrastructures
nouvelles. C'est ce qui rappelait au début de l'article, c'est-à-dire que tous ces projets étaient déjà bien engagés.
Mais je ne serais peut-être plus là, remarque.
Ils étaient inscrits au contrat de plan État-Région. Simplement, il y a eu une petite maldonne sur la durée estimée des travaux. Et il ne faut pas compter 7 ans, il faut compter 14. Voilà, c'est tout. Quoi. Donc, ça se bouscule le portillon. Mais au moins, la ligne 14 sera faite. Et sans les JO, la ligne 14 n'aurait pas été faite. Hein, elle n'a pas été terminée. Et puis, il y a les problèmes.
Elle ne sera jamais terminée au moment des JO. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas terminées au moment des JO.
Peut-être.
Ça va être une pagaille d'enfer.
Alors, du côté des bus, c'est là que tout a commencé à se dérégler.
Ah ouais, ça va être l'enfer.
Avant que l'onde se propage à l'ensemble du réseau. Alors, c'est amusant ce qu'ils racontent dans cette partie-là, parce qu'ils disent... il y a un paragraphe où ils disent « Sur les comptes rendus d'Île-de-France Mobilité, des chiffres inédits apparaissent. Un bus sur quatre monte à l'appel au deuxième semestre de l'année. Du côté des métros, 10 à 20% de l'offre, pourtant déjà revue à la baisse, ne sont toujours pas assurées. » Alors écoutez bien, à la SNCF...
À la SNCF,
où on a toujours regardé la RATP avec envie, pour la régularité de son service... L'offre tombait rarement sous les 95% et son faible taux d'absentéisme, la surprise est grande. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on nous raconte depuis des années que la RATP, ça ne marche pas, etc. La SNCF, ça peut être pire, effectivement. Mais là, on a quand même une petite phrase pour dire, bah, dis donc, la RATP, ça marche vachement bien. Bon, et ça marchait, disons. Qu'est-ce que vous voulez dire, Henrik?
Je veux dire que non, ça ne marche pas parce que tu prends la 9 et la 8... à minuit le soir en semaine, c'est blindé. Donc il y a un problème.
Oui, mais alors
il y a un problème ce qu'ils
expliquent, c'est que ils ont fait.
Il y a trop de gens sur la ligne.
Ouais.
C'est pas qu'il n'y ait pas assez de métro, c'est qu'il y a trop de gens.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la crise sanitaire, la RATP et la SNCF ont suspendu le recrutement et la formation. Donc ensuite, il faut rattraper. Et donc, dès 2022, ils ont lancé des plans de recrutement XXL pour combler leur retard, dit cet article écrit par Emeline Casi et Sophie Fay, que je suis en train de hacher en morceaux un peu. Le 6 février, Transilien, la branche francilienne de SNCF Voyageurs, accueillait 1300 candidats au Stade de France. 1300 d'un coup. La mobilisation générale porte ses fruits. En 2023, 4900 nouveaux cheminots ont été embauchés, dont 1300 en Île-de-France. C'est moitié plus qu'en 2022, trois fois plus qu'en 2021. Objectif est le même pour 2024, année au cours de laquelle 1300 conducteurs doivent être formés. En 2023, 6600 personnes ont été engagées contre 3005 à 4000 par an avant le Covid. Pour 2024, la RATP vise 5300 embauches. Tout n'est pas entièrement négatif. Hein, vous voyez, il y a des trucs.
Tout
là.
Ça, il n'y a personne, ils ne trouvent personne. ils n'arrivent pas à embaucher.
Ont été
et pourtant, ils ont augmenté le salaire, ils n'arrivent pas. Les chauffeurs de bus, ils démissionnent tous.
Ah oui, mais ça, c'est à cause de la réforme. Ça, c'est à cause de la privatisation.
Réforme, et puis, ils en ont marre de se faire caillasser, ils en ont marre de se faire tabasser. Les chauffeurs de bus, les chauffeurs de métro, ils ont des horaires pas possibles. Et en plus, il y a toujours des accidents ou se faire agresser. Ça, c'est faux, ça. Ils essaient de vouloir, ils veulent embaucher.
Ils veulent embaucher,
mais ils trouvent personne.
Mais c'est au passé. Donc, ça a été fait normalement. Et pour 2024, voilà, la RATP vise 5300 embauches, dont 1350 conducteurs et 3700 CDI.
Ouais.
Accent est mis sur les conducteurs de bus qui, après 5 ans d'expérience environ, passent au métro, puis 8 à 10 ans plus tard au RER, mais d'autres postes sont à pourvoir, depuis l'accueil dans les stations, la sûreté, la maintenance, qui est le nerf de la guerre. Alors, M. Castex, qui est devenu le chef de la RATP, il dit qu'à force de rationaliser, il manquait de la présence humaine dans les stations. J'en fais trop, là, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Irène n'est pas d'accord du tout.
10 ans après, du chauffeur de bus, tu passes RER. Bonjour, la promotion.
Ah bah,
10 ans.
Ben oui,
c'est la
comme ça.
Vache.
C'est beaucoup. Oui, mais tu veux faire quoi?
Hein?
Tu veux devenir quoi après?
Je vais dire par là que, attends, des chauffeurs de bus, tu passes chauffeur de métro, en plus que maintenant tout est automatisé, il ne faut pas 10 ans quand même.
Non, il n'y a que 2 lignes automatisées.
Oui, mais ça va être. Il va y en avoir plusieurs là pour le JO. Qui... La 4 va être automatisée, la 4 est déjà automatisée.
Je crois, oui.
Et il y a d'autres lignes hein, qui vont être automatisées.
Oui, mais ça prend du temps avant qu'une ligne soit automatisée. On a regardé pour la 1, ça a pris du temps.
Ouais, bah attends, moi je ne sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de conduire. Un bus à Paris dans les conditions où on vit actuellement que conduire un RER, quoi. Je sais pas, moi, mais il faut 10 ans d'expérience.
C'est ce qu'ils mettent dans l'article.
C'est énorme.
C'est ce qu'ils mettent dans l'article. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prix du pass Navigo, bon, on a affaré le sujet. Le défi est de taille. Ben oui, la SNCF devra déployer 4500 trains supplémentaires avec, par exemple, des navettes spéciales depuis la gare Saint-Lazare vers le stade Yves du Manoir pour le hockey et le rugby à 7.
Si c'est pour les mettre en grève à chaque fois que les gens ils en ont besoin.
À Colombes, dans les Hauts-de-Seine, qui avait accueilli les JO de 1924, la SNCF et la RATP promettent une offre de 15% de métro supplémentaires par rapport à un été classique, 30% sur les lignes les plus sollicitées. Alors, des discours rassurants. Malgré ce caractère hors norme, la RATP, la SNCF et l'IDFM sont particulièrement sereines. Le manque de trains Alstom Bombardier, qui empêchera de mettre en route à la bonne fréquence le RER E prolongé jusqu'à Nanterre-la-Folie, par exemple, ne les affole pas. Seuls 4 trains par heure circuleront, mais l'effet waouh sera au rendez-vous, assure Alain Riba, le directeur général de Transilien, et Delphine Comollet, chargée de mission sur l'organisation des Jeux. La gare de la Porte-Maillot sous une verrière au pied de l'hôtel des membres du CIO, c'est magnifique. Cette extension, c'est une cerise sur les gâteaux. L'aréna de la Défense où se tiendront les épreuves de natation est déjà desservie par le RER A, la ligne 1 et les trains L et U.
Et la nouvelle
Arena,
la chapelle, ils
n'en
parlent pas?
Je ne sais pas.
Qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps.
Je termine par le mieux, je trouve. Ils misent.
Dans
cette même journée du 30 juillet où les épreuves auront lieu simultanément au Parc des Princes, à Roland-Garros et à Versailles, desservies par les lignes de l'Ouest, ça leur paraît gérable. Ils misent sur le recrutement. Nous avons fait de la dentelle et tout ajusté heure par heure, remarque Madame Comollet. Au plus fort de JO, nous serons toujours en dessous d'une période de pointe ordinaire en semaine hors vacances scolaires. Même le défi de vider et de remplir certains jours, 3 fois le Stade de France, ce qui revient à déplacer 180 000 personnes, semble sous contrôle. Nous avons étudié tous les flux, fait des exercices, la circulation, l'information voyageurs et la signalétique seront considérablement améliorées, insiste Delphine Comollet. Cela fera partie de l'héritage des Jeux. Bon, bref, on va voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, l'article est assez intéressant.
Il semble assez optimiste.
Il se termine par un truc assez dithyrambique.
Moi, j'y crois pas, tout ça. On va partir de Paris.
Ne mêlons pas la religion aux Jeux Olympiques, s'il vous plaît.
Je n'ai pas parlé de religion.
Non, mais tu as parlé de croyance, ce qui n'est pas très éloigné.
Non. Quand j'ai dit je n'y crois pas à tout ça, je ne parlais pas de croyance. Je parlais de la réalité.
Ouais.
Voilà. Je ne crois pas à tout ça par rapport à la réalité. Parce que. Il y a beaucoup de choses qui sont pas terminées. Entre autres, Madame Hidalgo, elle n'a pas encore mis les pieds dans la Seine. Hein. Elle a promis. Elle n'a pas encore plongé. Et là, maintenant, elle attend Monsieur Macron pour aller plonger avec elle. Il paraît que Monsieur Macron a dit « Oui, je viendrai ». Alors, je voudrais bien te... filmer tout ça.
Alors moi, je veux une place gratuite pour voir ça. Moi, j'ai aussi les trains annulés par manque d'effectifs en nombre de missions en août à décembre 2023 en pourcentage par rapport au nombre de missions prévues. Pour le RERC, 10%, 8 052, 10,6%. Pour le RERD, 3 000. Le RERH, pardon, la ligne H, 5,3%. 3259. La ligne J, 2% à peu près. La ligne L, 2200. Ligne N, 1400. Ben, y a beaucoup quand même de... Le pire, c'est le RERC, le RERD et la ligne H. Bon, voilà. Ce qui est très décevant, en fait, c'est ce qui avait été promis et ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été promis. Mais bon,
nous en sommes pas encore.
Ça finira par venir, mais ce ne sera pas pour cette année, disons.
Ah, ben si ce n'est pas pour cette année, on va remettre le JO quand ? En 2040 ?
Non, mais c'est des constructions qui étaient prévues quand on a fait le dépôt du dossier, ouais. Mais qui ne seront pas réalisées.
Mais il y a des choses qui ont été prévues au dépôt du dossier, entre autres, les transports devaient être gratuits pour entre le dépôt du dossier et au milieu, ils ont tout retiré, et non seulement ils ont retiré, ils ont mis les franciliens à payer les mêmes que les... Non mais attends,
et à vivre les mêmes cauchemars.
Cauchemars, mais c'est aberrant. Mais c'est aberrant. On paye des impôts, on paye des impôts locaux, on paye ceci, on paye cela.
Irel, à minuit, la ligne 9 qui va de Trocadéro à République et ensuite la ligne 8 qui va de Répu à Alfortville, elles sont blindées à minuit.
Encore ça marche.
C'est blindé.
C'est blindé, mais
donc,
ça marche. Parce que ça,
qu'est-ce
ça
va... que ça va être pendant les JO?
Puis les Jeux Olympiques, la plupart des villes le font sur un site unique, alors que nous avons voulu les faire sur les sites qui existaient déjà.
Donc, nous allons partir à Tahiti pour le surf.
Oui, et qui sont tous donc.
On va tous partir à Tahiti.
Ceux qui sont dans
surf.
La région parisienne, ils devaient tous être liés par des moyens de transport. Il y a par exemple Éole qui devait être prolongé vers la périphérie de Paris à partir de Nanterre-la-Folie. En 2022, ça devait être fini. Ça ne sera pas fini. Il y a une grande ligne qui court à peu près au niveau du pont de Sèvres et qui devait être prévue, qui partait de Nanterre-la-Folie, qui courait pont de Sèvres, qui rejoignait M15 Sud,
Noisy-Champs,
qui faisait tout le sud.
Vous pensez que franciliens, on nous dégoûte tellement de ce JO, il y en aurait certainement. Mais vous pensez qu'il y aura beaucoup de franciliens...
Qui se baigneront avec Hidalgo.
Oui, entre autres, qui seront au rendez-vous de ce JO. On ne nous a pas facilité. Moi, je trouve que c'est aberrant qu'on ne nous a même pas, en tant que Parisiens ou franciliens qui habitent à Paris, offert une place.
Bah, il paraît que... Alors, je n'ai pas compris où on les trouve.
Incroyable.
Mais il paraît qu'il y a des places gratuites.
Non, il n'y a pas de place gratuite.
Il paraît qu'il y a des places gratuites. Je ne sais pas comment on les a.
Ils savent très bien leur envoyer leur carte d'électeur. Je ne vois pas pourquoi ils n'envoient pas aussi un billet pour chaque habitant. C'est facile.
Attends, ils ont la liste. Attends, Irène, on t'envoie une place gratuite. T'y vas. Bah, dis non.
Non, je serais où, au 10e loge là-bas? Non.
Moi, non, tu vas pas.
Qu'est-ce que j'ai vu aussi dont on avait parlé? On avait parlé des bouquinistes et du
fait. Ça y est, c'est réglé.
Alors ça, c'est réglé. Devinez comment? Alors c'est pas les subalternes qui ont réglé le problème. C'était on lisait. Et heureusement, le grand, très sérieux et très noble et qui s'intéresse à
sa
tout.
Sa Majesté.
Et qui décide de tout. Sa Majesté elle-même, Monsieur Macron.
Le roi a pris en compte ce que demandait,
et d'ailleurs. C'est marrant parce que dans le Canard enchaîné, je ne sais pas si vous...
C'est madame est très culturelle, attention.
Ah oui,
madame
Brigitte.
Madame est très culturelle, Brigitte. Donc,
Brigitte.
Il ne faut pas toucher à la culture. Donc.
Il ne faut pas toucher à Brigitte.
Ah ben non, donc Brigitte a dû dire, excuse-moi Manu, mais tu ne touches pas ça, quoi. tu touches pas au bouquinis, s'il te plaît. Voilà, si t'es au pouvoir, c'est que j'ai t'ai appris tout ça, donc tu laisses.
Même Serge, il rigole. Brigitte, don't touch.
J'ai lu un petit article Brigitte dans le Canard, mais touch. Je ne le retrouve pas. Mais en fait, il y a un des bouquinistes qui écrivait régulièrement chaque année à Macron pour lui présenter ses vœux. Et là, il avait reçu un petit mot de Macron qui disait « Je vais m'occuper de votre problème ». Et donc...
C'est le bouquiniste qui a écrit.
Alors, je n'arrive pas à retrouver cet article.
Attends.
Parce qu'il y a,
les 8 ans.
Il y a 8 pages au Canard enchaîné. Et donc
les 8 ans.
Non, mais ça ne fait rien. Je vous ai donné la teneur. Donc, il y a, c'est une façon rigolote.
Moi, je trouve
ça
très bien parce que je trouve dommage. Je vais dire que ce qui va se passer dans la scène, ça va se passer qu'une journée.
Non, mais c'est bien.
Et déplacer tout ça pour une journée. Déplacer des bouquinistes.
Alors, au départ, il devait y avoir 1 million de spectateurs. Je crois ensuite, ça a été descendu à 600 000. Nous sommes actuellement à 300 000. Et. Avec des places en 100 000...
2 500 € la petite place. J'ai une infirmière, son mari...
Elle gagne bien, dis donc, ton infirmière, pour mettre ce prix-là. Elle gagne bien, ton infirmière.
Non, c'est son mari. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait son mari. Son mari, il m'a dit 2 500 €. Encore, c'était la moins chère. J'ai dit, ok, d'accord, super.
Non, il y aura des places à 25 €.
Gratuite. Gratuite.
Tu seras où, chérie, à 25 €?
Je ne sais pas, mais...
Même si tu as des amis qui habitent sur
le... Tu seras au Châtelet. Tu seras au Châtelet et tu verras ça.
Il te faut un badge, gilet pare-balles pour rentrer chez toi. Non, mais attends...
je me trompais de journal. C'est pas dans le Canard, c'est dans le Monde.
Des gens qui habitent sur la Seine.
Voilà, c'est dans le Monde. C'est Monsieur Jérôme Calais, président de l'Association des bouquinistes de Paris, qui souffle enfin. C'est magnifique. Nous remercions Emmanuel Macron du fond du cœur. Il met fin à 7 mois de cauchemars et d'incertitudes. Chaque année, en janvier, Monsieur Calais envoie ses vœux au chef de l'État. Là, il m'a répondu, dit-il récemment, comptez sur moi très cordialement. Et d'après le représentant des bouquinistes, M. Macron et son épouse venaient, surtout avant d'être à l'Élysée, acheter des ouvrages et parler avec ses confrères.
Ah ben voilà.
Cette décision élyséenne arrive au moment exact où les choses allaient s'envenimer, car l'Association des bouquinistes de Paris mettait la dernière main au recours qui allait être déposé au tribunal administratif de Paris pour éviter que les boîtes ne soient enlevées. Bon, on avait parlé un peu une semaine précédente de ce problème.
Ils sont très culturels, ils sont maçons. Donc voilà, Brigitte a dû dire, c'est exactement ce qu'il dit. Avant d'être à l'Élysée, ils allaient là. Attends,
moi, j'aime bien les bouquinistes depuis que j'ai 15-16 ans. Parce que quand j'avais 15-16 ans, je ne sais pas quelle allure je pouvais voir, mais les bouquinistes, eux, ils savaient. Donc j'ai regardé d'un peu trop près un livre qui m'intéressait. Et il y a un bouquiniste qui m'a dit « Enlève tes doigts de là, espèce de PD !» Et donc... J'ai un bon souvenir. Depuis, je leur pardonne. J'étais très jeune, j'avais 15 ans, voilà, c'est tout.
Ne nous dis pas le sujet du livre, imagine.
Oh ben, il n'y a pas de livre à 15 ans, tu parles.
Yves, oui. Merci pour l'anecdote.
Je vous en prie.
Vraiment.
C'est du vécu.
Ouais, bah d'accord. Non, là,
je dois dire que je dois dire qu'à l'époque, c'est ma mère qui m'habillait, évidemment, à 15 ans.
Elle donc, m'achetait, les elle m'achetait des chemises des connards.
Très, très fleuves. Pas du tout, j'ai pas dit ça. C'est l'air du temps. L'air du temps a changé et ils ont changé comme tout le monde.
Mais quelle chemise c'était ?
Elle achetait des chemises dans des boutiques pour femmes très, très fleuries avec des
grandes fleurs.
C'était également la mode. Hein. C'était Antoine.
Ah ouais, c'était Antoine.
Ah oui.
Musique. Basta.
I want someone to call my We'll Thank you.
Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire de poste non radio show. Alors, je voudrais répondre à mon collègue Alex, il me dit, mais comment ça, ça a existé à un moment donné, cette histoire de naturalisation des enfants à l'étranger. Moi, je suis français matriciellement. Dans la matrice, je suis français. Je suis une sorte de français. Mais en même temps, je ne suis pas une sorte de français. Non pas que je me considère étant comme entre deux pays. Moi, je suis de nulle part. Moi, je suis d'ailleurs, d'un imaginaire. Je ne me sens pas plus. Je me sens pas d'un pays dans le sens où, pour moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, en fait. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis très heureux d'être français parce que c'est un, quand même un pays où tu peux bénéficier d'un tas de choses et qui est à la pointe quand même de certaines choses. Tu peux être libre en tant... Enfin, tu peux plus ou moins être libre en tant qu'homosexuel, par exemple. Et ce qui est mon cas, je suis homosexuel, etc. Mais...
Ce ne se remarque pas du tout. Non. Ça a l'air vraiment, quelle surprise.
Alors là, quelle surprise. Bravo, Enrique, tu nous fais un coming out.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... être... Ça a plusieurs strates. C'est très compliqué, on en parlera dans une autre émission.
Moi, j'ai sous les yeux, si tu veux, le truc de servicepublic.fr, nationalité française d'un enfant né en France de parents étrangers. Ils disent, vous êtes parent étranger d'un enfant né en France. Si vous résidez en France, votre enfant peut obtenir la nationalité française. Nous vous indiquons les conditions à remplir et comment faire la demande selon l'âge de votre enfant. Il y a trois cas. De 13 à 15 ans inclus, de 16 à 17 ans inclus et 18 ans. Je vais lire simplement le premier pour vous montrer que ce n'est pas si simple. De 13 à 15 ans inclus...
Ça existe toujours.
De 13 à 15 ans inclus... est-ce que je vais y arriver ?
Ça bug.
La démarche par étapes, tout déplié. Voilà. Premièrement, vérifier les conditions à remplir. Voilà. Il faut avoir entre 13 ou 14 ou 15 ans, être né en France, résider habituellement en France depuis l'âge de 8 ans, résider en France le jour de la déclaration. Votre enfant doit indiquer s'il est d'accord ou non pour avoir la nationalité française, sauf s'il est sous tutelle ou si un handicap l'empêche d'exprimer sa volonté. Ensuite, il y a d'autres règles spécifiques, j'ai zappé. Ensuite, si on a entre 16 et 17 ans, la démarche par étape, c'est il faut avoir entre 16 ou 17 ans, être né en France, avoir eu votre résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, résider en France le jour de la déclaration. Règles spécifiques s'appliquent à Mayotte par ailleurs. À 18 ans, hein, qui a dit que la loi était simple ? Vous devez remplir les trois conditions suivantes. Résider en France à l'âge de 18 ans. Avoir votre résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de 5 ans ou plus depuis l'âge de 11 ans. Donc 5 ans ou moins depuis l'âge de 11 ans. Il faut que vos parents étrangers ne soient pas agents diplomatiques ou consuls de carrière. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vérifiez si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Des règles spécifiques s'appliquent également à Mayotte. Voilà, il y a donc trois grands cas, et ce n'est pas si simple. De 13 à 15 ans, de 16 à 17 ans, il y a cette condition d'avoir résidé en France plus de 5 ans. Enfin bon, il faut arriver à prouver tout ça. C'est devenu un peu compliqué, disons.
Alors, je vais réagir par rapport à ça, ça n'a rien à voir, mais il y a une loi qui va sortir bientôt. Par rapport à la CAF, j'ai l'élu vite fait, et on m'en a parlé. Maintenant, les personnes, même de l'Union européenne, il faudrait qu'ils résident 3 ans et qu'ils ont un CDI pour pouvoir bénéficier de la CAF, même avec des enfants.
Mais c'est passé le texte ?
Il va passer. Sans ça, ils n'auront pas droit à la CAF, ils n'auront pas droit à tout ce que la France peut offrir à des personnes de l'Union européenne. Donc, je connais des Roumaines, des Moldaves, des machins. Moldave n'est pas dans l'Union européenne. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer parce qu'ils passent par la Roumanie, parce que c'est un business. Et moi, donc, ça rejoint ce que tu viens de dire. Il faut résider en France pour pouvoir avoir la nationalité de 5 ans, de 6 ans. Donc, en fait, la loi qui vont sortir par rapport à la CAF, le logement et tout, ça revient toujours à ça, quoi. Il y a toujours des délais, et des délais qui changent, qui reviennent, qui changent. En fait, c'est pas clair. Il n'y a rien qui est clair.
Alors, en plus, l'argument a été cité pour cette loi qui a été retoquée, la loi immigration, dans une grande partie, a été retoquée. Donc, je ne sais pas si ça s'est concerné ou non, mais ça fait... à qui va servir ces aides? C'est aux enfants qui sont dans les écoles en France. Et donc, ces enfants de parents qui toucheront peu les aides, qui ne sont pas forcément dans des situations formidables, vont avoir en plus moins d'argent par rapport à leurs petits camarades.
Exactement, parce que les enfants, donc, ils n'auraient même pas droit à la cantine.
Donc,
ils
si on veut que les gens s'intègrent, il faut un minimum de générosité, je crois.
C'est la discrimination, hein. Moi j'appelle ça, voilà. Et ça, cette loi, c'est en cours et ça va être acté. Moi, je trouve ça dommage pour les enfants, surtout. Et puis pour ces personnes qui n'ont pas les moyens, on leur retire tout ça. Oui. Je trouve ça dommage. Donc, la loi que tu viens de citer là, par rapport à la nationalité française, il faut résider tant de temps, machin, pour les enfants nés ici, machin.
Je n'imaginais même pas que c'était aussi compliqué. Je pensais, parce que ce qu'on entend souvent à la télévision ou sur les ondes, disons, c'est qu'il suffit de faire une demande à 18 ans. C'est bien plus compliqué que ça, apparemment.
Hyper
si on a 18 ans, c'est plus compliqué.
Déjà, je vais te prendre déjà un exemple. Un étudiant qui vient étudier en France, qui vient de pays autre. Il étudie, il a son diplôme et après, il est embauché en CDI. Donc, il est obligé de changer le statut. Parce que quand il vient en France, il est en statut étudiant. Il est obligé de changer le statut en statut
travail
et avoir une carte de séjour. Ça prend 2 ans.
Ouais.
Ça prend 2 ans. Or que c'est facile. Il a un CDI, il travaille, il sort de l'école. C'est quand même simple. Et non. Et on te demande des trucs. Ça prend 2 ans. En fait, la France est bien. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'adore la France. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau administration, je crois qu'on a touché le pompon. Là on est incroyable. Et même quand tu vas à la mairie ou dans l'administration, ça dépend des personnes à qui tu t'adresses, c'est jamais la même réponse. Ils te demandent des trucs différents, te demandent des trucs... Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à jour. Ils ne sont pas à jour.
Bon, j'ai un dernier truc de 3 minutes. Après, moi, je vais m'en rentrer chez moi, mais...
D'accord, ok.
J'ai un article sur l'intelligence artificielle. On va parler du journal Le Figaro. C'est rare, hein? Il paraît qu'à terme, l'intelligence artificielle pourrait remplacer les enseignants, les comptables, les juristes, les journalistes et bien d'autres. On avait oublié les experts financiers. Le Figaro, malicieux, a proposé à 3 experts du marché un petit jeu à la fois très drôle et périlleux. Défier l'IA, l'intelligence artificielle, sur le terrain d'un portefeuille d'actions. Chacun avait la même somme à investir, 22 950 euros, le plafond de livret A. Il fallait obtenir le meilleur rendement en 6 mois. Le Figaro a relevé les copies. Et là, oups, les grands experts se sont fait laminer. ChatGPT-4 a obtenu un rendement de 15%, soit 5 034 euros avant impôt, et s'est classé largement en tête. Au vu des résultats, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, organisme de supervision de la banque et de l'assurance, flairant le danger, a publié un petit avertissement pour arguer que les conseils financiers donnés aux épargnants par des robots conversationnels ou des chatbots augmentaient à tort la confiance des utilisateurs. Et le journal Le Canard Enchaîné ajoute « mauvais perdant, va ». Un petit article signé ASM et plein d'humour. Voilà, ça m'a bien amusé. Et sinon, j'avais un article sur la BBC, à la française.
À la française, oui.
L'Union fait la farce, dit le canard, un article de CN. On en reste baba, tant l'annonce est originale. À peine nommé ministre de la Culture, Rachida Dati tient sa grande réforme, une BBC à la française, dans l'audiovisuel public. Mais non, réunir France Télévisions et Radio France, quelle idée géniale! Il faut aller vite, répète celle qui adore France Inter et court les studios pour le dire. On va pas rester comme ça à regarder le train passer. C'est sûr qu'en matière de BBC à la française, quelques Eurostars sont déjà passés et repassés, mais jamais arrivés. Un jour sans fin, 30 ans que le serpent de mer de la Manche nous distrait et que les dirigeants de l'audiovisuel public font le voyage de Londres, que les experts se relaient dans le tunnel pour aller contempler le modèle, que les rapports sénatoriaux et les commissions de l'Assemblée succèdent, la BBC à la française a un seul problème, elle file toujours à l'anglaise. Chirac en rêvait déjà un peu. Le jogger Sarkozy courait après ce Big Bang et allait tout faire péter, lorsque Hollande lui a chippé sa place. Ce dernier comptait commencer dès 2013 pour un grand service numérique de l'audiovisuel public promu par sa ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, tandis que deux sénateurs en 2015 publiaient leur rapport choc, Gatelin-Leleu, pour aboutir à un grand France Média en trois étapes. En attendant la première, Macron, sitôt élu, deux ans plus tard, après avoir traité France Télé de honte de la République, annonçait sa méga BBC à lui. Puis son ministre Franck Riester ramait avec un projet morné jusqu'en 2020. Enfin, un sympathique sénateur Laurent Lafon débarquait à l'été 2023 avec